le titre aujourd'hui, c'est « La complexité de la foi en Dieu ». C'est le titre que je lui ai donné, « La complexité de la foi en Dieu ». Et avant d'aller plus loin dans la parole, dans le message, je vais juste prendre quelques minutes juste pour qu'on puisse prier. Seigneur Dieu, on te remercie encore une fois pour ta présence, parce que tu nous dis dans ta parole que quand deux ou trois sont réunis, c'est que tu es là au milieu de nous. Alors je sais que ce matin, tu es ici. Tu as entendu nos louanges aussi, Seigneur, et aussi tu dis que tu règnes au milieu des louanges. Alors ce matin, Seigneur, ce que je te prie, c'est que tu puisses venir utiliser ma bouche, afin que chaque parole qui va y sortir puisse être tes paroles. Tes paroles à toi qui viennent toucher nos cœurs, qui viennent nous encourager, nous fortifier. Alors Seigneur, viens agir avec puissance ce matin. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on a prié. Amen. La complexité de la foi en Dieu. Pourquoi ce titre-là? Parce qu'en fait, quand on regarde dans le dictionnaire la définition de la foi, ce que ça dit, c'est ça dit de croire, tout simplement. Et en fait, quand on parle de la foi, on dit de croire, mais ça dit aussi que c'est avoir une ferme confiance. Vous savez, des fois, on entend l'expression de dire qu'on a foi en une personne. Ou encore, il y a des gens qui disent qu'ils ont foi à une cause quelconque. Puis on voit que les gens, souvent, ils vont se donner, l'expression qu'on dit, se donner corps et âme pour la cause dans laquelle ils croient. Puis quand on parle de la foi en Dieu, bien dans le dictionnaire, il nous parle de la même chose. Il nous parle que cette foi-là, de dire que si on croit en Dieu, c'est la même chose. Mais moi, ce matin, ce que je vous dis, c'est que la foi en Dieu, c'est plus que ça. Et c'est là que la définition vient changer puis que ça ne fonctionne pas toujours. Parce que la foi en Dieu, ce que c'est qu'il va nous amener à dépasser nos limites, les limites de notre connaissance. La foi en Dieu va faire en sorte qu'on va dépasser aussi peut-être notre imaginaire. La foi en Dieu va faire en sorte aussi qu'il va peut-être nous amener à poser des gestes irrationnels, pas logiques. Puis on voit que les gens, des fois, ils en posent des gestes, puis tu dis, mais pourquoi il fait ça? La foi en Dieu nous amène aussi à vivre dans le surnaturel. Et c'est pour ça que je dis que cette définition-là, elle n'est pas fausse, mais en même temps, elle ne tient pas quand on parle de la foi en Dieu. Et je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire par là, jusque où la foi en Dieu peut nous amener. À un moment donné, avec mon épouse, nous avons trois enfants, et quand on a eu notre première, ça fait quand même quelques années, elle est ici même derrière, et après quelques mois qu'elle était arrivée, mon épouse a fait une sortie, puis en voiture, et elle a eu un accident de voiture. Et là, les mois qui ont suivi, les semaines et les mois qui ont suivi, son état de santé s'est détérioré. Et ça n'allait plus tellement bien. Deux reprises, on a dû faire venir les ambulances parce qu'elle ne pensait pas qu'elle allait survivre. Et elle n'était plus capable même de s'occuper de notre petite, ce qui fait qu'on a dû se retrouver chez mes parents pour qu'ils puissent s'occuper. Et on va voir toutes sortes de médecins. Mais à un moment donné, tous les médecins arrivent pas mal toujours à la même conclusion, mais on ne peut pas vous aider, madame. Et là, à un moment donné, il y a une, on nous dit, on vous envoie voir ce médecin-là, c'est un spécialiste, il va être capable de faire quelque chose. Alors, tout confiant, nous y allons. Bien, mon épouse, il va plutôt avec son père, c'était avec son père quand il y avait été. Et lui, le médecin, ce qu'il dit, je ne peux pas rien faire. « Madame, vous êtes tellement amochée que je ne peux pas rien faire. » Peut-être dans un an, on va se revoir. Alors, vous comprendrez que le découragement était rendu pas mal à son comble. Et là, c'est un mercredi que ça s'est passé. Et là, mon épouse me dit, « Ce soir, nous allons à l'église. » Parce que le mercredi, à l'église où on allait, il y avait de la prière. Puis là, ben, je n'étais pas certain parce que, ce qui se passait, c'est que mon épouse, pour pouvoir marcher, elle avait un gros carcan, elle avait sa canne, puis moi, de l'autre côté, je la tenais. Mais pour elle, elle était convaincue. Elle dit, « Denis, ce soir, nous allons à l'église. » OK, allons à l'église. Nous allons à l'église. Et là, ben, pour pouvoir s'asseoir, parce que vu qu'elle n'arrivait pas à se tenir sur une chaise, on se met dans le fond, on accote la chaise sur le mur, puis là, elle s'accote là. Et là, ça se passe tout normalement, tout bonnement, tout est correct. Jusqu'à la fin, où là, il n'y a personne qui conduisait les champs, lui, il nous dit, j'ai à cœur de prier pour les gens qui sont malades. Et c'est sûr que moi, je l'écoute, et là, c'est moi qui raconte, OK? C'est pas la personne qui souffre qui raconte, là, c'est moi. Et c'est sûr que je l'écoute et je me dis, ouais, c'est correct qu'il demande, je trouve ça correct. Parce qu'on le voit bien, là, qu'elle file pas. Mais mon épouse, elle me dit, Denis, elle dit, ce soir, j'avance. Et je vais avancer. Alors, OK, je vais t'aider. Et là, elle dit, non, elle dit, je veux même pas que tu m'aides. Et là, il part d'en arrière, puis là, avec sa canne, puis là, ça cote chaise par chaise pour pouvoir avancer. Et les gens qui étaient là, la personne qui avait fait l'appel, a prié pour elle. Et le lendemain, elle était guérie. Wow, hein? C'est une question de foi. Vous savez, je peux dire que j'ai foi à une cause quelconque. Mais quand on parle d'une situation comme ça où on dit « j'ai foi en mon Dieu », on ne peut pas comparer cette même définition-là. On ne parle pas de la même chose. On parle d'une foi envers un Dieu qui est créateur, celui qui a tout fait, celui qui est surnaturel et qui peut faire aussi du surnaturel à chacun. Et vous savez, quand on parle de foi dans cette situation-là, c'est mon épouse qui avait cette foi-là d'avancer. Et aussi la personne qui a dit, on va prier pour ceux qui ont besoin. Et Dieu, il avait mis dans son cœur de dire que c'est aujourd'hui que Dieu allait répondre. Et c'est ce que Dieu a fait. Puis comme je vous disais, j'ai dit, moi, je regardais à côté, j'étais le spectateur. Mais cette conviction-là qu'elle avait dans son cœur, c'est le Saint-Esprit qui lui avait mis. C'est Dieu qui lui avait mis. Alors, c'est pour ça que quand je vous dis que, quand nous parlons de la définition de la foi, de croire, on n'est plus juste dans cette situation-là de croire seulement. Et ce qu'on va faire ce matin, on va aller voir dans la Bible, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la foi. Et là, on va aller voir ensemble dans Hébreux 11, les versets 1 à 3, qui nous dit, « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. » La foi, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La compréhension que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et ça, vous savez, ça ici, ça semble peut-être anodin ce qui est écrit là. Mais ça ne l'est pas. Dans ce sens que, quand il est dit de comprendre la compréhension que le monde a été formé par la parole de Dieu. Je me souviens, j'ai déjà témoigné à un de mes amis qui est très, très, lui est très logique dans sa tête et tout ça. Ben, comme moi un peu, parce que je suis en informatique, fait que nous, l'informatique, c'est très, très logique. Hein? Alors là, de lui témoigner puis de lui dire que le monde a été créé par la parole de Dieu, ça y rentre pas dans la tête. Il comprend pas ça, parce que c'est pas logique. Mais tous ceux qui y croient, comme vous, moi, on s'entend que là, on a une croyance autre. C'est différent d'être convaincu que le monde a été créé par la parole de Dieu. Puis quand on regarde aujourd'hui, juste la nature par elle-même, elle se régénère. On voit, on a cette bénédiction-là d'avoir les quatre saisons. Puis on voit, par exemple, les feuilles, les arbres et tout ça qui commencent à fleurir. Puis après ça, avec les saisons, mais après ça, ça se fane, puis ils tombent. Puis l'année d'après, on recommence encore. Et c'est toujours là. Mais là, de dire que un moment donné, il n'y avait rien de tout ça. Et que Dieu a créé tout ça. C'est par la foi. Il y a juste par la foi que nous pouvons croire à ce qui est écrit là, à ce qui est dit là. Parce que logiquement, je ne peux pas l'expliquer. C'est impossible d'expliquer. Il y a juste un seul moyen, c'est que si nous y croyons. La foi va au-delà du raisonnement humain. C'est un peu ce qu'on entend ici, là, c'est ce qu'on vient de lire. la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Un exemple, l'histoire d'Abraham. Abraham, pour ceux qui la connaissent peut-être pas, l'histoire, c'est un monsieur, il a sa famille, c'est un homme qui a beaucoup d'argent, il est riche, il a ses terres, il a ses serviteurs et tout va bien, puis à un moment donné, il entend une voix, la voix de Dieu qui lui dit, « Abraham, tu laisses tout tomber ça, tu t'en vas avec tout ce que tu as à la terre promise. » Ah oui, c'est où la terre promise? Mais tu vas voir. C'est ça qu'il y a eu comme réponse. Vas-y, tu vas voir. Oui, mais elle est où la terre promise? Tu vas voir. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et Abraham a décidé de partir avec tout ce qu'il avait, avec ses serviteurs, ses animaux, puis tout ce qu'il avait, là, son troupeau, et on part. On part à la terre promise. Mais il ne sait pas où qu'elle est, la terre promise. Ça, c'est avoir la foi. Avoir une foi, être si convaincu que ce qu'il a entendu était réellement Dieu qui lui a parlé. Qu'il était convaincu que Dieu lui avait dit de partir, et par cette conviction-là, cette foi-là, il est parti. Est-ce que nous ici, nous avons tous cette conviction-là? La foi nous dit aussi d'aller au-delà du raisonnement humain. Ici, l'exemple que je vais vous donner, ça se retrouve dans Matthieu 14. Et là, c'est Pierre. Pierre est un homme de foi qui croyait beaucoup, mais un homme très spontané. Et lui qui disait, quand Jésus lui demandait quelque chose, oui, il était le premier à dire oui, puis il partait, puis ça y était. Et là, ici, dans l'histoire, c'est dans Matthieu 14, les versets 28 à 31. Et là, c'est l'histoire, c'est que là, ils sont dans une barque avec les autres apôtres, et ils s'en vont. Et là, il fait quand même pas tellement beau. Et là, à un moment donné, ils voient quelqu'un qui marche sur l'eau. Et là, ils ont peur, ils ont dit, oh, c'est qui ça? C'est un fantôme. Et là, Jésus leur dit, non, il dit, je suis pas un fantôme, c'est moi, Jésus. Et là, Pierre, d'un bond, qui lui dit, Seigneur, si c'est réellement toi, dis-moi de m'en venir. Alors, Jésus lui dit, Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit, ça c'est Jésus, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. D'un coup, il est sorti, il est parti. Mais, en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Pourquoi je vous parle de ça ici? C'est que, vous savez, la foi, comme ici l'exemple de Pierre. Pierre, là, d'un coup, là, il était très spontané. Ce qui n'est pas mon cas à moi. Moi, je suis plus logique. Et je prends le temps, quand on me dit quelque chose, d'y réfléchir. Et je vous avoue que si ça avait été à moi que Jésus avait dit « Viens me suivre sur les eaux », d'après moi, je me serais un peu astiné avec. OK? D'après moi, j'aurais dit « Mais par expérience, quand je mets le pied dans l'eau, il cale. » OK? C'est pas mal sûr que j'aurais dit ça. OK? Mais lui, il réfléchit pas, puis il y va. J'en connais aussi des gens dans ma famille qui sont plutôt comme ça. Go, on y va. Et des fois, ça fait qu'on s'astine parce que on y va, puis moi je dis, on va prier là-dessus, on va y penser. Non, on y va. Et alors, Pierre, c'est un peu ça qui s'est passé. Il a dit, moi j'y vais. Mais voyez-vous ce qui s'est passé, c'est que là, à un moment donné, il est parti, puis là, il marche sur les eaux. Mais là, il commence à s'apercevoir de ce qui se passe. Il commence à réaliser que là, oui, il fait pas beau autour de lui. Il commence à avoir peur. Et là, il commence à couler. Parce que là, il avait la foi quand il est parti. Mais là, à un moment donné, dans sa tête, là, ça s'est mis à réfléchir. Puis il s'est commencé à se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est un peu ce qui s'est passé là. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et vous savez, c'est ça qui arrive avec la foi qu'on peut avoir en Dieu. C'est qu'à un moment donné, la foi que nous avons en Dieu, elle vient comme frapper comme notre raisonnement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le mystère de la foi en Dieu. C'est qu'à un moment donné, notre raisonnement fait en sorte qu'on se dit, ça se peut pas. Ça se peut pas ce qui se passe là. Puis c'est un peu ce que Pierre est en train de se dire. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et là, dans sa tête, il a commencé à raisonner. Puis pourtant, c'est Jésus. Puis Jésus lui dit, viens. Puis il y va, là. Puis il marche sur les eaux. Tu dis, ben pourquoi tu commences à caler? On s'en fout pas mal qu'il fasse pas beau. Tu le fais, là, puis il est là, puis il t'a dit de venir. Pourtant, quand il a commencé à avoir peur, puis à raisonner, il a commencé à couler. Ce que ça nous dit, c'est que là, sa foi commençait à manger un coup, là, puis à défaillir. Et c'est là la difficulté quand je parlais du mystère. C'est que oui, nous avons foi en Dieu. Puis Dieu, ce qu'il nous demande, c'est d'aller au-delà de nos limites, comme Pierre a fait, comme Abraham a fait. Il nous demande d'aller au-delà de nos limites. Mais où on est confronté, c'est quand nous, dans notre raisonnement, on commence à réfléchir. Et là, on commence à se dire, c'est-tu vraiment ça? Je me souviens, je vais vous donner un autre exemple. Je me souviens, pour les gens, beaucoup ici savent que nous arrivons de Rimouski. Mais en réalité, on n'arrive pas de Rimouski. Nous, on vivait avant sur la rive sud de Montréal. On habitait à Belleuil-Saint-Hilaire. Puis à un moment donné, oui, on était vivre à Rimouski. On était vivre là pendant 9 ans. Mais en fait, pourquoi on était à Rimouski? C'est qu'à un moment donné, on priait, mon épouse et moi, puis on avait vraiment à cœur de dire, on s'en va à Rimouski. Mais on s'en va là-bas pour aller servir Dieu. On ne savait pas ce qu'on voulait aller faire là-bas, mais on allait pour servir Dieu. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un emploi pour moi, et on s'est dit, ça y est, c'est ce que Dieu, c'est là qu'il veut nous envoyer, on s'en va là-bas. Alors là, je passe l'entrevue et tout ça, et puis on m'offre l'emploi. Mais, vous savez, même si on prie et tout ça, on se sentait comme convaincus, mais nous, on s'était dit, on va mettre comme une genre de toison devant Dieu. On avait dit, on va y aller avec nos 3 enfants, nos 3 ados, on va aller passer 4 jours là-bas. Puis, on avait dit au Seigneur, Seigneur, s'il y en a un des 3 qui nous dit qu'il ne veut pas y aller, on n'y va pas. C'était ça qu'on avait mis devant le Seigneur. Et après les 4 jours, on demande aux 3 enfants, et puis, est-ce qu'on s'en vient vivre à Rimouski? Et là, les 3 nous répondent, oui, on part. Wow! Oui, on part. OK, je laisse mon emploi, on s'en va là-bas. Oui, j'avais un emploi qui m'attendait, là, parce qu'on m'avait offert un emploi, mais oui, on part. Oh, OK, fait qu'on se regarde, mon épouse, là, on se dit, ouais, je pense que c'est vrai, là, OK? Alors là, on est tout confiant, puis on a cette foi-là que quand on a prié, on avait réellement entendu la voix de Dieu qui nous disait, vous en allez à Rimouski avec les enfants, parce qu'on avait mis la toison. Alors là, tu es tout confiant, puis c'est correct. Alors j'appelle, puis là, je leur dis que j'accepte l'emploi et tout ça. Et là, le raisonnement commence à rentrer, à réfléchir. Et là, mon épouse, elle me dit, Denis, elle dit, tu sais que c'est beaucoup, hein, ce qu'on va faire là. Ouais, mais tu sais, on a prié, puis le Seigneur nous a montré qu'on devait le faire, tu sais. Fait que là, elle dit, ouais, mais elle dit, moi, là, elle dit, je voudrais bien y aller, mais eux autres, là, il va falloir qu'ils nous donnent quelque chose de plus pour qu'on puisse y aller. Et là, je dis, voyons, Diane, j'ai dit, je viens de dire que j'y allais. Ah, c'est pas grave, ça. Tu les appelles, puis tu leur demandes. OK. Alors, je les appelle et je leur demande quelque chose de plus pour que je puisse y aller. Et là, ils me disent oui. Hey. Alors, je dis, ben Diane, ils ont dit oui. Ouais, OK. Ouais, mais là, je repense, là, puis je voudrais avoir ça de plus. 3 fois que j'ai dû appeler, OK? 3 fois que, à chaque fois, je leur donnais une condition de plus, puis ils ont dit oui. Alors, vous comprenez que là, on n'avait plus ben de choix de dire, c'est Dieu qui nous envoie là, hein? Alors, oui, on est parti pour Rimouski, puis on était tous confiants, on était certains que Dieu nous envoyait là. Mais quand on était là, effectivement, quand je regarde aujourd'hui ce qui s'est passé, on voit que Dieu, oui, vraiment, c'est lui qui nous envoyait là. Et vous comprenez que si maintenant on n'est plus là-bas on est plus ici, c'est qu'on croit que Dieu aussi nous a amenés ici. OK? Mais, vous savez, c'est beau ça, hein, quand on raconte l'histoire comme ça. C'est facile. Mais vous savez que, à un moment donné, il y a des situations, il y a des moments qui peuvent être plus durs que d'autres. Et là, je reviens encore avec notre raisonnement à dire, ben, on se fait des idées des fois comment Dieu va arranger les choses. Parce que là, tu dis, OK, Dieu a ouvert les portes, les enfants ont dit oui, tout le monde a dit oui. Fait que là, on est sûr de nous que c'est ça. Mais vous savez, Rimouski, moi, je ne connaissais pas cet endroit-là. Le Bas-Saint-Laurent, je ne connaissais pas, OK? Et les hivers, je ne connaissais pas non plus les hivers de là-bas, OK? Et quand des fois, il neige tellement puis il te fait tempête que tu as l'impression que la maison d'en face, elle a disparu, tu dis, ça va pas bien, OK? Et là, je me souviens à un moment donné que là, j'ai vraiment des doutes dans ma tête. Parce que les choses ne se passent pas comme on avait prévu. La maison ne se vend pas. Moi, je voyage à toutes les semaines, Rimouski à Belle-Oeil. Et là, ça va pas bien. Puis là, je me dis, mon épouse est tout seule avec les enfants. Et là, ce soir-là, je me souviens pas c'était quel soir, mais je me souviens ce que j'ai fait, par exemple. C'est que ce soir-là, vous savez, des gens, quand ils sont plus déprimés, il y en a qui mangent pas, ils ont dit, j'ai pas faim. Moi, c'est l'inverse, j'ai plutôt faim. OK? OK? C'est pour ça que j'ai des rondeurs avec mon veston, ça paraît pas trop, là, mais. Et là, ce soir-là, ben déprimé. OK? Et là, je me suis dit, je m'en vais à la cantine du coin. Je me prends une bonne grosse poutine. Et là, je vous dis un Coke puis 7-Up, c'est pas assez fort pour boire avec ça, OK? Parce que la déprime est trop grande, là. OK? Et là, je me vois assis dans mon 2,5 devant la télé à regarder une game de hockey. Parce que c'était une game du Canadien, ça, je m'en souviens. Et là, de me dire, Denis, qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ton épouse est à 500 km plus loin, pris avec les trois enfants. Toi, tu es assis là, à écouter une game de hockey avec ta poutine, avec, dans un petit 2,5. Puis là, toi, tu te dis, c'est le Seigneur qui m'amène ici. Ça ressemble pas bien à ce que j'avais pensé. OK? Fait que ce que j'ai dû faire, j'ai dû commencer à m'asseoir, puis plutôt à me mettre sur mes genoux, puis à dire, Seigneur, j'ai pas rêvé. Nous n'avons pas rêvé. Quand tu nous as donné cette promesse-là, quand tu as mis les choses en place, c'était toi ça qui avait fait ça. Mais vous savez, avec le temps, il arrive des fois qu'on finit par oublier. Un peu ce que le pasteur disait tout à l'heure, on finit par oublier notre Dieu. On finit par oublier que Dieu nous donne des promesses. Et que ces promesses-là, bien, celui qui nous les donne, c'est le Dieu. Dieu, celui qui a créé le monde, qui nous a créés et qui prend soin de nous. Et c'est ça qui arrive. Et dans cette histoire-là que je vous raconte, je me souviens d'avoir pensé justement à Abraham. C'est pour ça que j'ai parlé d'Abraham. Parce que dans la Bible, là, les histoires des gens qui sont écrits là, la Bible est claire. Elle nous dit que ce sont des hommes et des femmes comme nous. Tout simplement, là. Ce n'est pas des surhumains, là. Ce sont des hommes et des femmes tout simples comme nous. Et imaginez Abraham dans ce cas-là, quand il est parti. Il n'y avait pas d'auto, là, OK? Alors, son voyage, là, ça a duré des années. Je suis convaincu, quand je regarde ça, qu'il y en a eu des doutes, lui aussi, à un moment donné. Je suis convaincu même que les gens, peut-être, avec lui, ils disaient, « Ben, Abraham, on s'en va où? On s'en va à terre promise. » Ouais. Mais où la terre promise? On s'en va à terre promise. Il ne savait pas. Alors, je peux vous dire que sûrement qu'à un moment donné, il y avait des doutes. Mais comment faisait-il pour surmonter ces doutes-là? Il n'y avait pas d'autre choix que de rencontrer puis de parler avec son Dieu. Et vous savez, dans la Bible, quand on parle d'Abraham, on le nomme le père de la foi. On le nomme le père de la foi. C'est correct, ça? OK? Je viens de faire un lien, c'est correct, ça passe, OK. Et le seul moyen, c'est ça, c'est de prendre le temps avec notre Dieu. OK? Mais la question qu'il faut se poser après ça, c'est de savoir, mais jusqu'où notre raisonnement humain peut-il intervenir et impacter les actions que Dieu peut avoir dans nos vies? Je repose la question. Jusqu'où notre raisonnement humain peut-il venir intervenir et impacter dans les actions que Dieu peut avoir dans nos vies? C'est une bonne question. Parce qu'on peut avoir le doute, on peut avoir des peurs. Puis il y en a peut-être que par rapport à nos peurs ou nos doutes, on ne veut pas le faire. On n'ose pas le faire. Puis ça, je vais vous donner un exemple. Moïse, vous savez son histoire, qu'il y avait un buisson ardent, puis que là, Dieu lui a parlé à travers le buisson, puis il a dit, « Tu vas aller délivrer mon peuple. » Mais Moïse, lui, il ne voulait pas vraiment le faire. Parce que Moïse, il disait que lui, il ne parlait pas bien. Puis il dit, « Je ne peux pas aller, moi, parler au Pharaon, puis tout ça, puis aller délivrer le peuple. » Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Ben, il lui a ajouté Aaron, pour qu'Aaron puisse parler pour lui. Alors, quand on regarde cette histoire-là, est-ce qu'on peut vraiment mettre un frein au plan de Dieu? Je suis obligé de vous dire que non. Parce que Dieu est tout-puissant, puis il va faire réaliser le plan qu'il avait prévu. Alors, même si Moïse, il disait, « Je ne suis pas capable, moi, de le faire tout seul parce que je ne parle pas bien. » Mais Dieu avait un plan, puis il était certain qu'il allait le faire, le plan. Alors, Aaron s'est ajouté. Mais je me suis déjà posé la question, puis là, ben, on n'en a pas de réponse. Mais si c'est Moïse qui avait tout fait ça tout seul, sans Aaron, peut-être que quand on regarde l'histoire, il n'y aurait pas eu tous les petits, peut-être les problèmes qu'il a eu, peut-être. Jonas est un bel exemple, celui-là aussi, dans le gros poisson. Parce que Jonas, Dieu lui avait dit, tu vas aller voir le peuple de Ninive, puis tu vas aller leur parler. Et lui, il ne veut rien savoir, là. Moi, je n'y vais pas. Alors, il prend un bateau, puis il s'en va vraiment dans le sens inverse, là, dans le bateau, là. OK? Puis il ne veut pas y aller. Mais Dieu avait un plan. Il voulait sauver le peuple de Ninive. Alors, il n'a pas eu le choix de dire à Jonas, ben, il va falloir que tu te prennes l'autre sens. Et là, c'est une histoire extraordinaire. Quand je vous dis que ça peut même dépasser notre imaginaire, ben, de dire qu'il se retrouve dans le ventre d'un gros poisson, puis qu'après ça, il est comme, on pourrait dire, comme vomi ou rejeté. À Ninive, où est-ce que Dieu lui avait dit, c'est là que tu t'en vas? C'est extraordinaire. Vous comprenez? C'est quelque chose que difficile à imaginer. Puis même si on avait voulu y penser, je ne pense pas qu'on se serait imaginé tout ça. Alors, non, on ne peut pas freiner le plan de Dieu. Mais peut-être que oui, on peut perdre certaines bénédictions ou des choses qu'on aurait pu vivre plus intensément avec notre Dieu, de par nos peurs, nos craintes. Mais c'est ça, avoir la foi. En fait, on voit souvent, des fois, une image que la foi, c'est de dire, ici, c'est que là, ici, il n'y a pas de marche. Fait que si je fais un pas, moi, je devrais tomber. OK? Mais avoir la foi, c'est de dire que je ne tomberai pas puis qu'il va y avoir une marche. Mais c'est ça, la foi. C'est se lancer dans quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Mais c'est ça qu'il nous demande de faire. Mais comme je disais, on a certaines fois des limites. Pouvons-nous mettre des limites à l'action de Dieu dans nos vies? Moi, je pense que oui, ça peut arriver. Mais Dieu est tout puissant, puis il va quand même nous utiliser. D'une façon peut-être différente, mais il va quand même, parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu a un plan pour chacun de nous. Jésus est mort sur la croix pour chacun de nous, tous nous autres ici. Il n'a pas fait ça pour rien. Et ce n'est pas vrai qu'il nous laisse tout seul, même s'il arrive des fois qu'on a l'impression d'être tout seul. Même si des fois on vit des difficultés et qu'on se dit, je prie puis il me semble qu'il ne m'entend pas. Mais ça, c'est faux, ça. C'est sûr qu'il nous entend. Il est mort pour nous. Fait que c'est certain, ça. Et vous savez, des fois, puis on peut le dire comme ça, est-ce que par la petitesse de notre foi, parce que c'est un peu ça qu'on réalise avec le temps, c'est que notre foi n'est pas si grande que ça. Est-ce que notre salut est remis en question? Mais la réponse est non. Parce que Jésus est mort pour nous. Le jour qu'on a fait notre prière et qu'on a dit, Seigneur, je crois en toi, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour moi, même si notre foi, elle est petite, elle va rester. Et Dieu va honorer ça. Vous savez, dans les versets qui suivent le texte qu'on a là, il y a bien des exemples, OK, d'hommes qui ont fait des choses assez particulières. Puis on peut les appeler, encore une fois, eux autres, on peut les appeler nos pères de la foi, OK? On peut les appeler comme ça. Deux fois, j'ai réussi, deux fois. Et là, ces exemples-là, je vais vous les donner, OK? Mais juste prenez le temps de vous imaginer d'être là. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Et je m'explique. Par exemple, dans les textes qui suivent, nous parlent des murs de Jéricho. Vous savez, l'histoire des murs de Jéricho, là, c'est que le peuple d'Israël est là. Ils veulent attaquer la ville, mais il y a les murs qui sont là. Ils sont trop hauts. Alors, le chef, lui-là, là, il se fait dire, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, pendant 7 jours, vous allez tourner autour de la ville. Seulement ça. Il n'y a pas un mot qui doit se dire. Vous allez tourner autour de la ville. Une fois par jour, faites le tour pendant 7 fois. Il faut le faire. Hein? Pensez-y, là. C'est sûr qu'il y en a qui devaient être sceptiques là-dedans. C'est sûr qu'il y en avait qui devaient se dire, quand est-ce qu'on va l'attaquer, la fameuse ville? Pourquoi on tourne autour? Ben oui, lui, il est en train de nous dire que c'est ce que Dieu lui a mis dans son cœur de tourner autour de la ville. C'est pas logique, mais c'est ça, avoir la foi. Et cet homme a eu la foi qui fait qu'après les 7 jours, quand c'était le temps d'aller attaquer la ville, ben les murs se sont écroulés. Je suis convaincu que jamais il avait imaginé que c'est ça qui allait se passer, que les murs allaient s'écrouler. Ça va au-delà de l'imaginaire. Mais c'est le Dieu en qui nous croyons. Si nous y croyons, c'est un Dieu qui peut faire plus que l'imaginaire, plus que ce qu'on peut penser. Noé, pensez-y, là, Noé, qui a construit une arche. Noé, il n'y avait pas les outils qu'on a aujourd'hui, là. On en a quelques-uns là, qui sont en construction, puis qu'il y a une maison, en quelques mois, on lève une maison. Et là, lui, il est tout seul, il y a une arche. Ça n'a pas pris quelques jours, là. On parle d'années. D'années qu'il a construit une arche. Et c'est certain que pendant ces années-là, il y a des bons amis qui ont été le voir. Mais qu'est-ce que tu fais là, Noé? Pourquoi tu fais ça? Un gros bateau. À quoi ça va te servir, ce gros bateau-là? Et pendant ces années-là, il continue à le faire. C'est pas logique. Moi qui aime bien la logique, là, c'est pas logique. Pourtant, il l'a fait, puis on connaît l'histoire de Noé. Mais c'est un homme, Noé, comme vous et moi. Des fois, on a tendance à les voir très gros, très gros, c'est pas le bon terme, OK? Très spirituel, je vais le dire plutôt comme ça. Mais la Bible est claire. Elle nous dit que ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi, simplement. Et cet homme-là, c'est un homme qui croyait en Dieu, qui avait entendu que Dieu lui avait dit « Tu vas construire une arche. » Aucune idée pourquoi, là. Il l'a fait. Puis on connaît l'histoire. Et c'est pour ça que je vous disais, essayez de vous imaginer ou de vous remettre à leur place. À ce moment-là, nous, comment on réagirait? Moïse qui a libéré le peuple d'Égypte, c'est la même affaire. Les plaies, là, faut le faire, là. Les plaies. Il y a un bâton dans les mains. Puis là, quand il lance le bâton à terre, il change en serpent. Mais juste moi, quand je le vois, le serpent, je me sauve. Mais là, il le reprend, puis il revient un bâton. Hi, OK. C'est quelque chose, là. Puis quand il allait voir le pharaon, puis qu'il allait dire au pharaon, ben si tu délivres pas le peuple, il va arriver telle plaie. Faut être convaincu, puis pas rien qu'à peu près, hein. Parce que là, sûrement que quand tu te mets à y penser, il va arriver, en tout cas, moi, personnellement, j'en aurais des doutes. Fait qu'on va au-delà de ce qu'on peut imaginer. La semaine passée, notre pasteur nous a donné un exemple. J'étais plus ou moins content de lui parce que il a pris mon exemple, OK? Non, il ne savait pas. C'est ça. À sa défense, il ne savait pas. Je ne lui avais pas encore dit. Alors, mais Élie le prophète. Et en fait, Élie le prophète, quand j'ai fait mes études bibliques, c'est un personnage que j'ai aimé beaucoup. Et j'ai même fait une étude juste sur lui. parce que je le trouve tellement humain dans ce qui est dans sa vie. Dans ce sens que, en tout cas, je trouvais qu'on se ressemblait sur certains égards. En fait, quand on parle d'Élie, le prophète, dans la Bible, on parle d'un prophète de puissance, parce que tout ce qu'il faisait, c'était assez particulier. Et entre autres, l'histoire avec quand il a affronté les 400 prophètes de Baal. OK? C'est quelque chose, ça. Là, il s'est mis contre 400 prophètes, puis il a dit, on va voir c'est qui le vrai Dieu. Il dit, là, ce qu'on va faire, on va mettre un holocauste, puis on va faire descendre le feu du ciel, puis qui va venir consumer l'holocauste. Avez-vous déjà vu ça, vous autres, ici? À part des éclairs, de voir le feu descendre du ciel. Déjà là, le défi, je me dis, il me semble qu'il y a quelque chose qui accroche. Mais c'est le défi que Dieu y avait mis dans son cœur. Et là, quand tu regardes, là, puis tu l'écoutes, lui-là, là, il est assez arrogant en plus de ça, là. Parce que pendant que les 400 prophètes prient pour que le feu descende du ciel, là, à un moment donné, il leur dit, « Je pense que vous ne criez pas assez fort. Vos dieux, ils dorment, ils ne vous entendent pas. » Il a été jusque-là, là. OK? Il a été jusque-là. Et je me dis, il y avait peut-être des pensées suicidaires, je ne sais pas trop, là, mais tu sais. Et après ça, quand c'est rendu à son tour, parce que ça n'a pas fonctionné, il a même dit, « On va mettre de l'eau là-dessus. » Et quand il a juste fait une simple prière, il n'a pas prié pendant des heures, il a dit, « Dieu, que ton feu descende du ciel. » Pouf! Le feu est arrivé, ça a été consumé, c'était... Je me dis, quand je regarde ça, je me dis, après ça, là, il me semble ta foi, là, il me semble que tu es comme gonflé à bloc, puis tu dis, « Dieu m'écoute, là. Dieu, il est là, il est avec moi, puis il m'utilise, c'est extraordinaire. » Mais pourtant, là, après ça, ce qui arrivait, c'est que le défi, c'était celui qui perdait, bien, il mourait. Alors, on s'entend que là, il a tué les 400 prophètes de Baal. C'était ça, le défi. Parce qu'il fallait reconnaître qui était le vrai Dieu. Et là, la reine, elle, c'était ses prophètes à elle, ça. Alors, quand elle a su l'histoire, elle a dit, « Mais toi, Élie, je vais te tuer. » Et là, il se sauve. Il a peur, puis il se sauve. Puis là, il a commencé à tomber dans une déprime telle qu'il s'est dit, « Je veux mourir. » Tu dis, « Ben là, je comprends pas. Je comprends pas la logique là-dedans. Là. Moi qui est très logique, tu dis, tu viens d'arriver, là, ce qui s'est passé avec les 400 prophètes de Baal, je comprends pas que tu aies peur de ce que la reine peut avoir dit là. Là. Okay, on s'en fout un peu de ce qu'elle a dit, la reine. Là. C'est un peu ça. Mais pourtant, la peur l'a figé. Et là, il voulait mourir. Puis là, il disait, Seigneur, j'étais là debout tout seul pour te servir. Puis tu l'as fait. Puis là, au lieu de dire, ben garde, c'est lui le vrai Dieu, on veut me tuer. C'est ça qu'il a dit, là. Fait que là, il était dans sa tête, puis il raisonnait, puis c'était fini, là. Mais Dieu avait un autre plan pour lui. Alors là, il a envoyé un ange pour lui dire, va-t'en dans une caverne. Et pourquoi je vous parle de la caverne? Parce que cela, c'est la partie que je trouve intéressante de la caverne. Parce que dans la caverne, OK, à un moment donné, il est dans la caverne, puis ça lui a dit, va dans la caverne, puis attends, je vais venir te parler. Et là, à un moment donné, ce que ça a dit dans la caverne, c'est qu'il y a eu un vent, il y avait un grand vent qui soufflait. Après ça, il y a eu un tremblement de terre. Après ça, il y a eu un feu. Et dans toutes ces circonstances-là, à chaque fois qu'il y a eu le grand vent, Élie sortait de la caverne, puis là, il disait, « Ah, non, ça, c'est pas mon Dieu qui me parle. » Là, il rentrait. Après ça, il y avait eu, comme je dis, un tremblement de terre. Fait qu'il sort de la caverne. « Ah, non, c'est pas la voix que je connais. » Il rentre. Après ça, il y a eu un feu. Il sort, puis il dit, « Non, c'est pas encore la voix que j'entends. » Et ça dit à la fin, il dit, « Enfin, un son doux et subtil. » Élie a reconnu la voix de Dieu parce qu'il prenait le temps de le quotidien avec lui. Je l'écris comme ça. C'est-à-dire qu'Élie, quand il est sorti et qu'il avait eu un son doux et subtil, il a reconnu la voix de Dieu à ce moment-là. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment il a fait pour reconnaître la voix de Dieu? La réponse, elle est simple, c'est qu'il a pris le temps avant de parler avec son Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous prenons le temps, à chaque semaine ou à chaque jour, de parler avec notre Dieu? Est-ce que nous reconnaissons la voix de Dieu? C'est important de reconnaître la voix de Dieu, parce que c'est cette voix-là qui va faire en sorte que quand notre foi va commencer à défaillir, c'est cette voix-là qui va faire en sorte que tu dis, « OK, je reprends courage. » C'est cette voix-là qui va me dire, « Ben, t'as pas rêvé. Quand je t'avais dit une promesse, elle va s'accomplir. Elle s'accomplit peut-être pas aussi vite que tu pensais, mais elle va s'accomplir. » Puis est-ce que nous prenons, nous, le temps d'entendre cette voix-là? Et là, je vois que le temps file, fait que je vais aller plus vite. Mais c'est important parce que, et c'est ce que j'ai toujours aimé de ce personnage, parce que autant il va avoir peur, comme moi je peux avoir peur, puis qu'on peut avoir peur, mais en même temps, il prenait le temps d'aller se ressourcer, puis d'aller chercher les forces où il devait être. Dans Hébreux 11:6, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Il dit, ici, ce qu'on comprend, c'est que, autant dans les histoires que je vous ai racontées, qui sont assez particulières, mais vous savez, Dieu ne nous demande pas de tout aider Abraham, ne nous demande pas de tout aider Moïse. Ce qu'il nous demande simplement, c'est de, ici, nous, dans notre région, est-ce que nous sommes des gens de foi? Est-ce que les gens autour de nous voient que nous sommes des gens, des hommes et des femmes qui vivons par la foi de notre Dieu? C'est tout simplement ça qu'il nous demande à chacun de nous. Vous savez, oui, on a des histoires, en fait, les histoires là, qui sont écrites là, c'est pas pour essayer de nous montrer qu'on n'est pas grand-chose, au contraire. C'est pour nous montrer que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu extraordinaire. Et que s'il nous fait des promesses qui semblent peut-être des fois un peu drôles, mais il peut les réaliser et il va les faire. C'est pour ça qu'on a ces exemples-là. C'est pour nous montrer ça. Mais ce qu'il nous demande à chacun de nous, c'est dans notre quotidien. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui vivons par cette foi-là? En un Dieu, pas une cause, en un Dieu, le Dieu créateur qui peut tout faire. Le Dieu qui nous écrit dans la parole, puis moi je l'aime cette parole-là parce que c'est elle que souvent je m'accroche dessus, qui nous dit qu'il n'y a aucune épreuve que nous vivons qui soit au-dessus de nos forces. Et ça, moi je la retiens souvent, puis je la dis souvent, mon épouse a un petit sourire parce qu'elle sait que je le dis souvent, OK? Mais c'est parce que c'est notre Dieu qui nous écrit ce qui est écrit dans ce livre-là. Il est vrai. Et ce qu'il nous dit, c'est ça qui va se passer. Alors, quand il me dit qu'il n'y a aucune épreuve que je vis aujourd'hui, même si ça me semble au-delà de mes forces, pourtant, elle dit bien qu'il n'y a rien qui est au-dessus de mes forces et que je peux continuer à avoir cette foi-là, cette confiance-là envers mon Dieu. Je vais vous raconter une histoire d'un personnage. Un personnage qui s'appelle Adoniram Judson. C'est un missionnaire. Puis, pourquoi je vous la raconte? Parce que je vais vous lire un peu ce qui s'est passé. Je vous raconte un peu son histoire. C'est un missionnaire en Birmanie. Et ce monsieur est parti là pour traduire la Bible en Birmanie. OK? En birman, je pense que c'est comme ça qu'on dit le dialecte qu'ils avaient. Puis, il allait là aussi pour évangéliser. Mais pour lui, ça a été très, très, très difficile. Parce que quand il a commencé à évangéliser, tout ça, ça n'allait pas bien, son affaire. Ce qui fait qu'à un moment donné, il s'est retrouvé en prison. Et là, il se disait, ben moi, j'étais là pour aller parler de Dieu là-bas. Et là, aujourd'hui, je me retrouve en prison. Fait que son image de missionnaire, puis de traduire la Bible, on s'entend que c'est pas comme ça qu'il l'avait imaginé. OK? Et là, son épouse est là, puis essaye de l'aider, pour sortir de prison et tout ça. Et le jour qu'il sort de prison, son épouse était grandement malade et elle meurt. Alors, quel cauchemar! Puis je vous dis pourquoi je vous dis quel cauchemar. C'est que ce missionnaire-là est tombé dans une grande dépression. Une grande dépression à un point tel que ce qu'il a fait, c'est qu'il avait creusé un trou. Et ça, c'était sa tombe. Et pendant un an, à tous les jours, il s'assoyait à côté de son trou. Puis la seule chose qu'il espérait, c'est de mourir pour se retrouver dans son trou. C'est triste, hein? triste, puis sûrement qu'il devait se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Puis pourtant, il reste là. Et ça, moi, je ne comprenais pas ça. Je me dis, mais pourquoi il reste là? Il me semble, retourne chez vous. Tu n'as peut-être pas bien compris que Dieu, peut-être pas là qu'il voulait t'envoyer. Quand tu commences à imaginer ça. Mais il est resté là parce que lui, il était convaincu que Dieu l'avait envoyé là. Et je vais vous juste vous lire ce qui est écrit dans son, ce qui est écrit dans son résumé. Pendant sa dépression, ce qui était écrit, il y avait cependant une effusion intense d'amour et de prière venant de ses collègues et des autochtones convertis. Mais ce qu'il y avait de plus important, c'était le solide fondement de sa foi qui fut capable de supporter les plus pénibles périodes de doute. Lentement, il se remit de sa dépression paralysante. Son expérience douloureuse renouvela sa spiritualité, ce qui approfondit son ministère. Il commença à parcourir la Birmanie en aidant les autres missionnaires. Partout où il allait, la réaction était la même. De nombreuses personnes intéressées, des conversions et signes de croissance spirituelle. Je voulais vous le lire parce que ce que je trouvais intéressant, ce qui était beau là-dedans, c'est que oui, il est tombé dans une grande dépression. Mais il est resté, il avait la foi que son Dieu pouvait l'aider pareil. Et ce que je trouvais le plus beau là-dedans, c'est qu'il nous parle que ses confrères, ses amis, les autochtones convertis, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là? Ils priaient pour lui. Vous savez, on a tous besoin de prière les uns les autres. On a tous besoin de prier les uns pour les autres. Parce qu'on ne sait pas comment l'ennemi va des fois nous attaquer. Parce que vous savez, la foi qu'on a en notre Dieu et le fait que nous sommes sauvés, c'est quelque chose d'extraordinaire, OK? Mais en même temps, l'ennemi, lui, ne veut pas que ça soit comme ça. Alors, il nous arrive des fois toutes sortes de situations. Mais pour Dieu, on est important. Mais vous savez, on ne les connaît pas tous ce qui peut nous arriver. Puis on va toujours avoir besoin les uns des autres pour prier les uns pour les autres, pour s'encourager, pour s'aider. Et dans l'histoire ici de cet homme, de ce missionnaire-là, c'est ce que je trouvais d'extraordinaire. La beauté de ça. Puis c'est personne, je pense, voudrait vivre ce qu'il a vécu. Mais quand tu regardes après ça, parce que le reste de son histoire, ce que ça nous dit, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de conversions. Et le peuple en Birmanie s'est presque tout converti. Fait que, oui, Dieu avait un plan. Il n'était pas facile, mais il avait, comme je disais tout à l'heure comme promesse, il avait la capacité de passer à travers, même s'il ne pensait pas qu'il l'avait. Mais dans la parole, ça se dit qu'il n'y a aucune épreuve au-dessus de nos forces. Et pour lui, c'était ça. Et vous savez, pour chacun de nous aussi aujourd'hui, on a tous des épreuves, on a tous des moments à surmonter, des plus difficiles, moins difficiles. Quand ça va bien, ben c'est le temps de prendre le temps de prier avec nos frères et nos sœurs. Quand ça va moins bien, c'est le temps de demander de prier pour nous. C'est ça qui est la foi. Et cette foi-là, c'est pas juste de dire qu'on est ici à l'Église et qu'on fait juste croire, là. Mais c'est en une foi en qui notre Dieu, un Dieu qui va répondre à la prière. Amen. En conclusion, là, je vais demander les musiciens, puis là, je termine rapidement. Okay? Je vais demander aux musiciens de s'avancer, s'il vous plaît. Et la conclusion, je la finis avec Luc. Luc 18, les versets 1 à 8. Et vous allez voir, c'est juste une continuité de ce que je viens de dire. En fait, dans Luc 18, c'est une parabole. C'est la parabole du juge unique qu'on appelle avec la veuve. Et je vous la raconte, la parabole, parce que faut pas tout le lire au complet, mais c'est qu'il y a un juge qui est là et il y a une veuve qui va continuellement lui demander que le juge lui fasse justice. Puis le juge, il fait pas justice. Mais elle y va tout le temps, puis elle continue, puis elle continue, puis elle lâche pas, puis elle arrête pas. Puis là, à un moment donné, ce qu'elle nous dit dans la parabole, c'est que le juge finit par dire, regarde, je pense que je vais y faire justice parce que là, elle me casse les oreilles, je suis comme tanné de l'entendre, puis je vais avoir au moins la paix, fait que je vais y faire justice. C'est ce que la parabole a dit. Mais quand elle termine la parabole, ça nous dit dans les versets 7 et 8, ça nous dit, « Et Dieu, ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais la fin est importante. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes frères et sœurs, si nous voulons que Dieu retrouve la foi sur la terre, nous devrons, dans ce cas-là, se tenir les uns les autres et s'encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres. Parce que tout seul, on risque de manquer de foi. Tout seul, dans ce qu'on peut vivre, on peut avoir l'impression qu'on ne réussira pas. Mais ensemble, on peut s'aider. Ensemble, on peut prier les uns pour les autres. Et pendant que les musiciens vont jouer un peu, avec le message de parler de la foi, de prier les uns pour les autres, je ne peux pas passer à côté de faire un appel. Et ce matin, okay, pendant qu'il va y avoir la musique, s'il y en a ici parmi vous qui avaient besoin de prière, quels que soient les besoins, ça peut être des guérisons et tout ça, parce que notre Dieu peut tout faire ça. Il n'en a pas de limite. Il peut tout faire. Mais avancez, puis on va prier ensemble. Passez pas à côté de dire que j'ai des frères ou des sœurs qui peuvent prier pour moi, si vous avez un besoin. Parce que ce qui est important à la fin, c'est de garder la foi. Ce qui est important, c'est quand le Fils de l'homme va revenir. Même s'il tarde, même si des fois, peut-être, il y en a qui ont des doutes, disent, ben, je sais pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Il va revenir. Mais va-t-il trouver la foi? Et c'est important qu'il puisse trouver la foi. Notre foi, qu'il puisse la trouver. Alors, passons pas à côté ce matin. S'il y en a qui ont besoin de prière, OK? Avancez, puis on va prier ensemble. Puis comme je dis, quels que soient les besoins, guérison du cœur, guérison physique, n'importe quoi, il n'y a aucune limite. Mais faisons-le.